Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Eric.
Bonjour Jade, bonjour à tous.
Et oui, on refait la télé, même l'été sur RTL. On va réécouter ensemble les meilleurs moments de l'année.
Jade, quel est votre chanteur préféré entre Patrick Bruel, Vianney et Claudio Capeo?
Ah non, je peux pas choisir. Non, je suis incapable.
C'est bien ce que je me disais. Ah c'est pour ça qu'on va écouter les trois.
Hein, voilà.
Du coup, spécial chanson aujourd'hui dans les collecteurs de Refait la télé. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes autorisé à chanter, Jade. Hein.
Même pas un petit casser la voix?
Non, car c'est casser la voix, pas les oreilles.
Ah zut.
On va commencer justement avec Patrick Bruel.
Oui.
On lui a refait son CV quand il était venu nous voir. Pas parce qu'il cherche du boulot, hein, je crois que de ce côté-là, ça va. Il a ce qu'il
oui,
faut.
Oui, ça va. Il s'agissait de son CV télé, des moments de télé cruciaux pour lui.
Le CV télé.
Alors, on va refaire votre CV, mais en s'intéressant uniquement à vos expériences télé. Vous allez devoir tenter de deviner de quel moment de télé on parle grâce à nos indices. Ces indices, ça peut être une date, un nom, un mot. Premier extrait à reconnaître. Et donc, premier indice, Chad.
Oui, il s'agit d'une date, cette fois Patrick, le 22 avril 1979. Ça vous rappelle quelque chose?
Oui, bien sûr, c'est 4 jours après la sortie du coup de Sirocco et c'est ma première émission de télévision. Je suis chez Michel Drucker.
Ça vous ferait plaisir de réécouter l'extrait? Répondez oui, s'il vous plaît.
Parce
qu'on
l'a. Parce que j'ai,
oui,
parce que,
ce serait
je,
bien.
Je me souviens que j'ai la voix dans les, j'ai la voix dans les, dans les, dans les chaussettes, comme on dit, et Arcadie me dit, mais enfin, arrête d'avoir cet accent pointu.
Coup de Sirocco et petit coup de stress aussi. Hein.
Oui.
Alors, Patrick Bruel, c'est Polo Narboni, le fils de Marthe et de Roger Hanin. Le film. D'abord, quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 19 ans et demi.
Oui.
J'ai eu beaucoup de chance, c'est extraordinaire, parce que j'ai un copain qui est venu un jour au lycée avec une petite annonce et qui m'a montré. Comme j'avais l'habitude de plaisanter un peu avec l'accent pied noir en me forçant un peu.
Vos parents sont comédiens?
Ah non, pas du tout. Mon père est enseignant, ma mère est enseignante.
Ils voient ça d'un bon oeil, ils sont contents?
Ah oui, je sais. Ils sont très contents.
Michel Drucker, quand il se remémore cette première télé, il se souvient d'un jeune homme terrorisé. C'est vrai, vous avez eu peur?
J'avais peur. J'avais peur parce que je regardais les rendez-vous du dimanche toutes les semaines. Et que
les premières fois qu'on passe à la télé.
Le lendemain, on passe à la télévision.
Aller sur les plateaux télé maintenant, c'est une formalité. Il n'y a plus de stress pour vous. Vous y êtes chez vous.
C'est un plaisir.
Ouais.
En fait, c'est un plaisir. Jamais je ne me déplace sur un plateau télé si j'ai pas envie de faire l'émission ou pas envie de voilà. Enfin, j'y vais vraiment par plaisir.
Ça veut dire que vous sélectionnez en amont les émissions que vous allez faire?
J'ai cette chance. Qu'on m'en demande beaucoup, donc on est obligé de faire un choix forcément. Et puis il y a aussi un jeu maintenant de concurrence à la télévision qui fait que quand on fait certaines émissions, on peut pas en faire d'autres malheureusement.
C'est le cas notamment sur les access prime time.
Sur les access, oui, c'est normal sur les émissions qui ont lieu à peu près au même moment. Ce qui est pas complètement incompréhensible d'un autre côté, ne pas avoir le même artiste tous les soirs sur une chaîne différente à la même heure, ça peut se comprendre. Mais voilà, donc là parfois il faut faire des choix.
Il paraît que vous préparez les émissions de télé parfois avec un grand sérieux, notamment lorsqu'il s'agit de talk-show d'actu.
Oui.
Vous bossez en amont?
Oui, bien sûr. On peut pas aller à la télé parler de sujets sociétaux sans connaître ses dossiers, parce qu'évidemment l'artiste est forcément interrogé sur ce qui se passe. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les artistes ont très très peur. Et ça peut se comprendre que la moindre petite phrase puisse être détournée de son propos, puisse être sortie, puisse être balancée sur le net et c'est très difficile de revenir derrière. Donc parfois les gens sont voués à une grande prudence à la télévision, puisque souvent les intervieweurs cherchent la petite phrase qui va être la phrase de buzz.
Vous-même, donc, vous faites beaucoup plus attention qu'avant?
Oui, forcément. Forcément. Mais c'est normal qu'il y ait une appréhension là-dessus.
Allez, autre moment clé de votre CV TV, Patrick Bruel.
Alors l'indice, cette fois, c'est une série télé. C'est Columbo.
J'ai pas joué dedans. Hein.
Ah non, quand même pas. Non, un soir, vous vous êtes préparé à annoncer à la télé un épisode de Columbo.
Ah, oh, comment vous savez ça?
Ah mais on sait tout, on a vos dossiers, nous. Hein. 2014, c'est à Lille.
On est le 6 septembre 2014, non, le 5 septembre 2014, et TF1 a décidé de consacrer sa soirée en prime time, en direct, mon concert au Stade de Lille. Et je trouve ça complètement fou. Et surtout, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'on a.
Mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas prêt?
Parce qu'on n'a pas pu répéter au moins une fois entièrement le spectacle de A à Z. On a répété des petits morceaux, des petits bouts. On a un problème avec le début. Pas si vous l'aviez vu, mais le début où j'apparaissais comme une forme d'hologramme dans un énorme truc, ça marche pas ce soir. Donc on n'a pas de début. Ensuite, tout ce qui est prévu ne marche pas ce soir-là.
Il y a quelques heures de direct.
Donc à 2h30 du matin, je dis à tout le monde bon, rendez-vous demain, advienne que pourra. Mais je pars, je dors pas de la nuit. Donc j'arrive le lendemain et je croise Mathieu Verne à ce moment-là,
qui était en charge du divertissement de
TF1, et il est, je sais pas, 18h30, 19h. Et très sérieusement. Je lui dis, mais bon, mais si ça se passe mal, par exemple, tu peux tout de suite mettre Columbo.
Sauf que tes fans ne diffusent plus Columbo depuis des années, Patrick.
Ah oui,
il regarde, il fait.
Puis 72.
Mais t'es fou. Et il me dit, ça va bien se passer, t'inquiète pas.
Et ça s'est bien passé, et la magie du direct a opéré.
Ça s'est bien passé, ça a été extraordinaire. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de gens devant la télé. Ça a été fabuleux.
Bah oui, et puis vous dites que l'apothéose de ce show avait été casser la voix. Et ce moment, on l'a.
Pratique quand même, Patrick.
On va partir bientôt, j'espère.
Ouais, on sent l'impatience chez vous. Ce qui est quand même pratique pour vous, c'est que le soir, vous allez la voir vraiment cassée. Le public peut faire tout le concert à votre place. Hein.
C'est vrai que j'ai les meilleurs choristes, les meilleurs prompteurs.
Ah
au
oui,
monde.
Ah bah,
mais pas
mal de prompteurs,
ils connaissent toutes les paroles par cœur.
C'est vraiment un beau partage.
Patrick Bruel, vous avez chanté Marre de cette nana-là, tube extrait d'un premier album qui ne se vend qu'à 20 000 exemplaires, mais pour autant, il vous permet de remplir l'Olympia 4 soirs de suite, Patrick Bruel, même si en réalité, ça aurait pu s'arrêter dès la première minute, le premier soir. Parce qu'il se passe quoi au moment où vous entrez en scène à l'Olympia?
Ah oui, j'ai glissé.
Eh oui.
Je suis tombé.
Aïe, aïe.
Ouais, j'ai glissé, j'avais tellement le trac. En tout cas, ça m'a détendu. Je me souviens que ça m'a détendu.
Ah bah oui, ça peut détendre, voilà. Ouais.
Une chute, vous en avez fait une autre en janvier dernier lors d'une répétition des Enfoirés, Patrick Bruel, ça va mieux?
J'aimerais vous dire oui. Pendant 9 mois, ça a été très difficile avec beaucoup de rééducation.
Parce que là, c'est une chute assez importante, assez lourde.
C'était une chute très 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 lourde et qui aurait pu être catastrophique puisqu'il y avait pas de marquage au sol. On est en pleine répétition, c'est le premier jour. Je parlais, j'étais avec le téléphone, puis je recule, je sais pas pourquoi, et je tombe en arrière d'un mètre 60 et j'entends encore le hurlement de Liane Folly et de Jennifer. Je suis un peu sonné. Et je comprends que c'est le genou, mais que le reste, ça a l'air d'aller. Ça aurait pu être catastrophique.
Je vous dis, ça s'est joué un peu.
Ça s'est joué un peu d'être vraiment dans du.
Là, quelques mois après, ça va mieux.
Alors, ça va mieux, sauf que je me suis fait opérer donc il y a maintenant un mois et que j'ai encore un peu mal, mais ça m'empêchera pas de remonter sur scène.
Et retourner aux Enfoirés peut-être en janvier.
Oui, bien entendu, bien entendu.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL
avec Jade et Eric Dussard.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
Et on continue de refaire le meilleur de Patrick Bruel avec maintenant une séquence dont Jade adore prononcer le nom.
Quoi ?
Le c'est ce qu'on dit. Vous dites
le
comment ?
Le c'est ce qu'on dit.
Ah ouais, non, mais oui, c'est tout un art.
Eh oui, c'est un art. Ce sont les rumeurs. Et vu sa popularité, il y en a évidemment beaucoup sur Patrick Bruel. Donc on s'est dit qu'on allait les vérifier directement avec lui.
Qui a le droit de dire ça ? De poser des questions pareilles à Patrick Bruel ? Bah nous.
Oh, c'est bien écrit.
RTL.
On refait la télé.
Le c'est ce qu'on dit.
Le c'est ce qu'on dit.
Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit sur Patrick Bruel, les rumeurs sur vous dans le monde de la télé.
La première rumeur, elle concerne The Voice. On dit, Patrick Bruel, qu'on vous a déjà proposé plusieurs fois de devenir coach dans The Voice, c'est vrai?
Oui, bien sûr. Quasiment à chaque fois, d'ailleurs.
Et pourquoi ça c'est pas fait?
J'ai décliné parce que j'avais pas envie de j'adore regarder cette émission, mais j'avais pas envie d'être en récurrence dedans. Et pourtant, mais vraiment, j'ai un grand plaisir à coacher, à diriger des artistes, à diriger des acteurs, à diriger des chanteurs. Donc j'ai fait de temps en temps coach d'un soir, par exemple, au Québec. Je suis arrivé un mercredi et du mercredi au dimanche j'ai coaché les quatre finalistes. Dans ce laps de temps donné, j'ai aimé l'exercice.
Ce qu'on vient, c'est l'investissement sur plusieurs semaines.
C'est pas l'investissement qui me gêne, c'est je sais pas, je sais pas, en fait. Je sais pas.
Sur le principe même aussi, vous aviez dit, il y a quelque chose d'étrange à ce que soit le candidat qui choisisse le coach et pas l'inverse.
C'est ça, oui. Je crois que c'est la vérité. C'est ça qui me gêne. Enfin, c'est pas tant que le candidat choisisse l'artiste, mais que l'artiste saute de joie comme s'il avait eu un Oscar Hollywood parce qu'un candidat le choisit. Je trouve ça très bizarre. Voilà. Mais peu importe, c'est pas le sujet.
On inverse un peu les choses, ouais.
Mais pourquoi pas, je sais pas, enfin, on verra, mais non. Ça fait 8 saisons, j'ai refusé 7 fois.
Vous savez, ils sont plus nasses, ils vont vous rappeler. Allez, autre, c'est ce qu'on dit sur Patrick Bruel.
On dit que lorsque vous participez à une émission de télé, vous exigez à chaque fois d'avoir la loge numéro 14.
J'exige rien, c'est pas vrai. vrai.
Je n'ai pas fini. Et 14 bouteilles d'eau dans votre frigo.
Et 14 cacahuètes.
Et 14 barres de
chocolat. Et 14 cacahuètes. Un faux intox.
Non, intox total.
Il y a un fond de vérité là-dedans.
Mais le fond de vérité, c'est que le 14 est mon chiffre porte-bonheur. La seule fois où j'ai imposé le 14, c'était pour jouer au foot. Je n'ai jamais joué avec autre chose qu'un 14 derrière moi. J'avais besoin de jouer avec le numéro 14.
Mais pas donc 14 cacahuètes et 14 bouteilles d'eau dans les loges de télé, même si c'est votre chiffre porte-bonheur.
Non, mais un petit coussin avec un 14 qu'on m'a offert. Ouais. Dès que le 14 est quelque part, il est le bienvenu.
On prend. Ouais. Dernière rumeur dans cette émission consacrée à la télévision et donc à l'exposition médiatique, on dit Patrick Bruel que vous ne regrettez pas du tout, mais alors pas du tout, l'époque de la Bruelmania dans les années 90, c'est vrai ?
Je ne prends aujourd'hui que ce qu'il y avait de bon. À l'époque, je voyais aussi ce qu'il y avait de plus complexe, de plus pervers, de plus dangereux. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont sorties de tout ça.
Mais comment on fait pour ne pas péter les plombs quand on ne peut pas sortir dans la rue sans avoir 200 personnes qui hurlent votre nom ? Ce qui était le cas.
D'abord, je pense que j'ai été bien entouré. Bien éduqué.
Mais
aussi.
Solide, hein.
En fait, c'était pas nécessairement de la solidité, c'était de la lucidité. J'ai toujours fonctionné comme un joueur d'échecs, à regarder 1, 2, 3, 4 coups à l'avance, et je voyais déjà que ça, c'était dangereux. Que si je m'enfermais là-dedans, je pouvais ne pas sortir de ça. C'était quelque chose de compliqué parce que on transformait ce qui était au départ une relation artistique. C'était des chansons, un piano, une guitare, un artiste, des gens qui chantent, qui participent. C'est ça au départ. Et ensuite, ça devient phénomène de société. Donc, phénomène de société, on occulte le caractère artistique puisqu'on en fait un phénomène social.
Ça met au
second plan le travail. Et du coup, comme en plus, on cherche à ce moment-là un petit peu à ridiculiser le public, par ricochet, ça me ridiculise moi, donc ça décrédibilise un peu mon travail, donc beaucoup de mal ensuite à revenir avec du travail. Donc voilà, toute cette réflexion-là faisait que j'avais pas trop le temps de péter les plombs, comme vous dites.
Vous avez tout de suite connu la très forte exposition médiatique dès vos débuts. On peut le dire, depuis, ça a jamais cessé. Hein. Est-ce que vous avez pas parfois envie de redevenir l'inconnu Patrick Benguigui pour avoir la paix ?
Non, parce que ça serait malhonnête de dire ça. On peut pas vouloir toute sa vie travailler dans un sens et vouloir être quelque part dans la lumière, vouloir être un peu plus aimé que les autres, partager et profiter de ces moments absolument fantastiques pour faire la fine bouche quand, dans le train, des gens sont venus à côté de moi faire des photos, discuter, parler, échanger. Ça fait partie du...
Ça, c'est le côté positif, mais aussi l'acharnement de la presse.
Ah bah oui, après, ça, c'est autre chose. Mais il y a un jeu à jouer. Voilà. Et puis, quand on a envie d'un peu d'anonymat ou quoi que ce soit, bon, j'habite sur deux pays. Moi, j'habite entre la France et Los Angeles. Donc c'est sûr que là-bas, ça se bouscule moins.
C'est ça, vous retrouvez une forme d'anonymat là ?
Oui, bien sûr.
À part avec les touristes français ?
Mais oui, aussi.
11h30, midi et demi, on fait la télé le samedi. À tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
avez écrit ça pour sa fille, Eric.
Je vous réponds oui, vous êtes bien embêté, donc je vais être bon camarade. Mais je ne le savais pas du tout, Jade.
Isn't she lovely?
Oui, ce qui veut dire elle n'est pas mignonne, cette petite-là.
Eh ben oui, elle n'est pas adorable, elle n'est pas chouchounette.
C'était Stevie Wonder. Traduction littérale, c'est comme ça, RTL, on traduit tous les titres. C'est, on fait ça tous les étés, généralement. A tout de suite pour les collecteurs de Refait la télé. Nos meilleurs moments.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Alors celui qui arrive maintenant, c'est un ami de la maison. On peut même dire, Jade, que c'est l'un de nos chouchous. Hein.
Bah oui, c'est notre chouchou.
Voici Vianney.
Et vous connaissez l'adage, qui aime bien, châtie bien. C'est pourquoi on n'avait pas hésité à lui ressortir des dossiers très compromettants au moment de jouer à Archive ou Archifaux.
Vianney, avez-vous vraiment fait à la télé ce que nous allons vous affirmer ou pas? À vous de nous le dire en répondant à chaque fois juste Archive ou Archifaux.
Vas-y.
Vianney qui improvise un rap assez chaud à la télé, ça existait ou pas? Archive ou Archifaux?
Chaud dans quel sens?
Les paroles,
chaud suggestif. Oui, chaud sexy.
Je crois pas, non?
Eh ben si.
Ah ouais?
Oui, c'est une archive. Vous aviez repris un titre de Maître Gims devant Fanny Ardant sur France 5.
Clap, on vous écoute. Je suis rentré dans le club, la lumière s'est allumée. J'ai demandé la table la plus éloignée. Elle est venue me voir. Genre, on peut discuter. Je te rassure, j'en cherche pas que des qualités. Je vais te gunshot. Je vais te fatiguer. Gunshot. Oui, je suis calibré.
Ouais. Vous aimez cette chanson, Fanny?
Oui, parce qu'elle est très visuelle.
Ah, bah ça, oui. On a bien compris les paroles. Face à Fanny Ardant, bravo.
Ouais, quelle répartie de Fanny, parce que je ne sais pas si c'est visuel ou suggestif.
Les deux.
Ouais, c'est un peu les deux.
Fanny Ardant, avec qui vous aviez tourné au cinéma, Ma mère est folle, juste après ce film, janvier 2019, vous surprenez tout le monde en annonçant que vous allez prendre une pause, tout arrêter. Vous étiez arrivé à saturation, Vianney, à ce moment-là?
Franchement, non. Non, j'étais super heureux de mon métier, mais c'était comme si il fallait faire cette pause et ce pas de côté. Pour continuer à savourer un petit peu voilà ma vie. Je crois que c'est des métiers, on prend peu de vacances en fait. Tu sais, l'été on est en tournée de festival, le reste de l'année on est en studio ou en tournée. Voilà, et moi c'était, je me suis arrêté je pense au bon moment, avant la cassure, avant le burn-out. Non, je me
c'est ça l'étape vécu. Suivante, si vous n'étiez pas arrêté, ça aurait été sans doute ça, le burn-out.
Je pense, parce qu'il y en a plein de mes copains, il y en a plein qui pètent des plombs, qui vont se reposer en hôpitaux, en machin et tout, donc
il faut savoir s'arrêter.
Ouais.
Vous comprenez cette pause par exemple de Big Flo et Oli qui aussi ont décidé de
ouais, parce qu'ils ont pété les plombs plusieurs fois déjà, et je leur souhaite vraiment de faire une vraie pause, de vraiment tout couper, de vraiment arrêter. Voilà, parce que je sais que c'est dur aussi. Ils étaient dans une machine où ils voulaient s'arrêter. Ça fait longtemps qu'ils veulent s'arrêter et ils n'y arrivaient pas. C'est très dur aussi de débrancher.
Parce qu'on a le sentiment avec vous, les nouveaux artistes, que vous êtes soumis à un rythme beaucoup plus élevé que vos aînés.
J'ai l'impression en tout cas qu'aujourd'hui, il faut sortir un album tous les 6 mois. Il y a un truc comme ça. Mais oui, je pense que si on se laisse entraîner par la machine, c'est fatigant, quoi.
Vous dites aussi que vous étiez fatigué de vous-même. Vous en aviez marre de parler de vous à longueur de journée, que ça en devenait presque malsain?
Ouais, c'est pas malsain, mais à la fin, vraiment, oui, c'est piégeux, quoi, de parler de soi tout le temps. C'est sûr, c'est pas la normale, quoi. Donc le faire un temps, c'est même sympa, parce que par exemple, quand on a un projet, là, moi, c'est un nouvel album, donc je suis heureux d'en parler du chemin de cet album et tout, c'est vraiment un plaisir. Mais il y a un moment donné où ça faisait 2 ans que j'avais plus sorti d'album, 2-3 ans. Je parlais encore de moi, de ma vie. Ça n'avait plus de sens pour moi. C'était comme si j'avais déjà tout dit, déjà en chanson et puis en interview. Donc c'est sûr qu'il y a un moment, il faut faire ce pas de côté.
Mais comment on fait quand on a un jeune artiste comme vous pour imposer justement cette pause aux autres, dire bah non, quoi que vous disiez, moi je vais m'arrêter. Hein.
Eh ben il faut être dans un bon label avec une bonne équipe. Moi franchement ma chance c'est ça, c'est que j'ai un producteur qui, quand je lui dis dans 8 mois on arrête, pour le coup je lui dis en avance, je lui dis pas du jour au lendemain, et ben il me dit je te suis. Par contre ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs qui poussent à ne pas faire de pause, qui sont beaucoup plus à dimension industrielle et qui évidemment sont bien moins ouverts à ce genre de décision des artistes, quoi.
Allez, autre archive ou archifaux.
Alors Vianney, un jour vous avez chanté à la télé votre intolérance au lactose. Archive ou archifaux? Il me regarde bizarrement.
Il commence à douter.
Quelqu'un m'aurait fait chanter une connerie.
Oui.
Ah, vous êtes sur la bonne piste.
Oui, c'est ça.
Ok, bon,
oui,
bah,
oui.
C'est archive alors. Total.
Alors voilà, c'est pas vous qui avez chanté ça, mais un artiste au nom assez proche du vôtre, un certain Vianouche, inventé par les rois de la parodie. C'est le palmacho.
Ah. C'est le chanteur qui a le plus la joie de vivre. Il a un chat dans la gorge, les polos beaucoup trop serrés. Je parle bien entendu de Vianouche.
J'ai une soirée raclette demain. Mais je suis intolérant lactose. C'est pas grave, c'est la vie. C'est pas un grain de beauté, mon médecin veut me voir mardi. Oh, la chienlit, au 31, il y avait des huîtres. Y'a que moi qui finis à l'hosto. J'ai appris que j'étais stérile, alors que ma femme accouche bientôt. La chienlit.
Vous l'aviez vu cette parodie?
Oui, je l'avais vu.
Ça vous fait rire?
Oui, ça me fait marrer. Ils n'ont pas pris les bons accords. C'est con, ils auraient dû me demander.
Ah, ils voilà. ont tout misé sur voilà. les paroles,
ouais,
c'est pour
oui,
ça.
Hein. Sur, ouais. C'est le seul truc que j'aurais à redire.
C'est flatteur d'être caricaturé finalement. Ça veut dire aussi voilà, qu'on a accédé à un certain degré de reconnaissance, de notoriété.
Ouais, c'est ouais. rigolo, grave. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'était dans les Guignols quand ça existait. C'était avec Pala.
Ah mmh. oui.
Et c'était Sarko.
Oui, pour les affaires, ils avaient utilisé la
ouais,
chanson.
Exactement, voilà. Et j'étais déjà. Non, moi, ça me touche. C'est marrant, c'est cool.
Bon, la chanson de Vianouche, c'est bien sympa, mais nous, on préfère quand même celle de Vianney.
Et les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. Dis les coups de poing, les coups de vieux, je veux qu'on les prenne à deux. J'ai pas. Oh. On peut voir le monde en tout petit, ou s'aimer toute la vie. J'ai pas.
Et non, Vianney ne rit pas quand il parle d'amour sur son nouvel album. Merci d'être avec nous ce matin, on fait la télé à la maison avec Vianney. Pour de vrai.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Merci beaucoup, vous écoutez les collecteurs d'Orphée la télé, nos meilleurs moments, et on est toujours avec Vianney.
Vianney qui a fait cette année une arrivée très remarquée dans le jury de The Voice, autant pour la qualité de ses analyses que pour ses positions sur le fameux fauteuil rouge. Il s'assoit à peu près aussi mal que vous, Eric.
Oui, c'est vrai, c'est parce qu'on a fait tous les deux l'école du cirque option contorsion, vous voyez, c'est pour ça.
Surexcité, oui.
Il était venu nous voir justement quelques semaines seulement, sa première dans The Voice, Vianney. Et il nous avait tout dit de ses attentes, mais aussi de ses craintes.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
Laisse-moi aimer toi, please. Laisse-moi aimer toi. Comment aimer toi, please.
Il se demande qui ça peut bien être, Jade.
On se demande. C'est une candidate de The Voice, voilà, qui reprend l'un de vos tubes, Vianney. Alors, vous allez réagir comment si ça arrive à la prochaine saison de The Voice, dont vous allez être l'un des coachs?
Ce serait dur, ça. Ce serait trop dur. C'est bah ouais.
Vous pourrez pas dire en plus j'aime pas la chanson.
Bah non. Ouais. Réellement, je serais obligé de me retourner.
Ne serait-ce que par curiosité.
Ouais. Et puis pour dire merci, quoi. Donc non, je serais trop touché, je le sais.
Vianney, coach dans The Voice, et pourtant, la dernière fois que vous étiez venu nous voir dans Orphée la télé, Vianney. Voici ce que vous nous aviez dit.
Ne pas me retourner sur quelqu'un qui met tout son cœur. Je trouve pas ça choquant quand je le regarde. Mais moi, je sais que si j'y étais, j'aurais le cœur serré et je serais pas bien.
Est-ce que vous projetez, vous mettez à la place du candidat, en fait, tout simplement?
Ouais. Et du coup, il y a un truc de légitimité. Moi, j'ai même pas 30 ans. Mais qui suis-je, tu vois? Ceux qui sont là, je les trouve super parce qu'ils méritent d'être là. Moi, d'endosser ce rôle-là aujourd'hui, avec la légitimité que je pense que je n'ai pas, que j'aurai peut-être un jour, mais c'est pas encore le moment.
Ça, c'était fin 2018, le bon moment. On y est. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Vianney? Vous avez grandi artistiquement?
Ouais, ça, c'est vraiment le discours que je tenais directement à The Voice. Hein. Franchement, c'était très transparent entre nous. Quand je disais non, c'était pour des vraies raisons. C'était jamais contre eux, parce que je les aimais vraiment. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a gardé ce lien et qu'ils m'ont proposé plusieurs fois. Ils savaient que c'était
pas. Vous êtes allé plusieurs fois même chanter chez eux.
Ouais. C'est pas du tout du snobisme de ma part. Au contraire, réellement, c'est que je pensais que j'étais pas légitime. Et puis, il m'a fallu deux choses. Il m'a fallu travailler beaucoup en studio pour d'autres, pour comprendre que j'aimais ça, que d'être face à l'univers de quelqu'un et essayer de le sublimer. C'est quand même ça l'ambition dès qu'on, entre guillemets, on coach. Et puis, l'autre chose qui est délicate, c'est en effet d'accepter l'idée qu'il y a parfois des moments où je vais pas me retourner. Et ça, c'était compliqué. Et y a un truc qui m'a pas mal convaincu. Ils m'ont dit, mais tu sais, Vianney, aujourd'hui, on a fait un truc nouveau, c'est que si tu te retournes pas, après tu peux vraiment parler au candidat, quand même. T'es pas obligé juste de dire au revoir. Voilà.
Moins cruel. Et
ça, c'est dire, ouais.
Donc on aura l'occasion au moins d'expliquer aux gens à chaque fois pourquoi on n'y va pas, on se retourne pas.
Les tournages de The Voice doivent commencer dans 15 jours, hein, c'est ça?
Environ. Ouais, je pense.
Ils sont maintenus malgré le confinement, ça va changer les choses?
Non, c'est maintenu. Ouais.
J-15 avant le premier tournage, ça y est, le stress commence à monter ou pas, Vianney?
Non, je suis super content. En fait, je vais. Franchement, The Voice, Bon, à la télé, j'en ai fait beaucoup des émissions. Et puis de conseiller des candidats et tout. En vrai, je le fais en studio tout le temps. Et parfois, je le fais avec des têtes de cochon, hein, des gens pas faciles. Donc, je sais que j'aime ça, vraiment.
Mais voilà. Vous arrivez quand même un peu dans l'inconnu. Il paraît que vous n'aviez jamais vu une émission en entier de Voice jusqu'ici.
En vrai, je pense que j'ai jamais vu une émission en entier, non.
Et là, vous avez pas potassé? Vous avez pas repris les
anciennes saisons? Non, mais j'ai compris le système. Attends, je suis dans un fauteuil rouge. Il y a quelqu'un qui va chanter. Je connais le principe quand même. Attends.
The Voice, c'est une émission qui réalise de très fortes audiences. Ça va vous faire basculer encore dans une autre sphère de notoriété. Ça a été un frein aussi pour vous au début. Vous dire, bon, voilà, la notoriété, vous courez pas forcément après ça, hein. Vous imaginez, vous, parfois, continuer, je sais pas, à moyen, long terme, votre carrière dans l'ombre en écrivant pour d'autres?
Ouais. Je pense. Cette idée, elle est là, hein. Elle est en moi, en fait. Je sais que j'adore être sur scène. La scène, quand j'y suis, je donne tout ce que j'ai. Je suis tellement heureux. Mais une fois que je suis descendu de scène, moi, ma vie normale, elle reprend en 2 secondes 8. Et après, je reconnais que ça ne me manque pas au quotidien de pas faire de concert. Voilà, c'est pas, je veux pas être vexant du tout pour les gens qui viennent et qui me suivent, parce que je leur donne tout quand ils sont là, quand on y est. C'est vraiment parce que j'ai envie profondément, mais j'ai pas le besoin comme ça.
Ça veut dire que vous courrez pas, vous, à tout prix, après la lumière,
pendant
des années et des années, quoi.
Non, moi, ce qui me fait courir vraiment, c'est de progresser et d'écrire des chansons. Écrire des chansons, ça, je pourrais jamais arrêter, jamais. C'est pour ça que je pense que, même sans la lumière, j'écrirais des chansons. Donc, nécessairement, je devrais le faire pour d'autres à un moment donné. C'est ça que j'aime faire, en fait, d'écrire pour les autres. J'adore ça. Donc, ouais, je pense que je le ferai encore plus à l'avenir.
Alors, justement, votre volonté de rester un électron libre, de ne pas faire comme tout le monde, vous en avez fait une chanson dans votre nouvel album.
À l'encre débile.
Les magazines à l'encre débile. Vous allez vous faire des copains avec les journalistes. Je pense bien avec cette chanson. Hein.
C'est pas tous les magazines. On les connaît.
Mais quelques-uns.
On les connaît.
On ne les affichera pas, mais on sait.
Non, mais c'est aussi l'idée que voilà, il n'y a pas d'injonction à devoir faire ce qu'on nous dit dans les magazines. Il faut rester soi-même, il faut rester libre. Ouais. Voilà.
Et puis les magazines, parce que je trouve que c'est un joli mot. C'est aussi pour ça que je l'emploie. Mais c'est à plus grande échelle, c'est tout. C'est le monde qu'on nous propose. Est-ce qu'on veut tout embrasser de ce monde-là? Ou est-ce qu'il y a des trucs qu'on aime avoir une certaine distance avec eux? Et voilà, et je pense cultiver une distance avec le monde qui nous entoure, c'est un truc qui nous maintient assez libre. Donc c'est une ambition, c'est une belle ambition, ce truc-là.
Pour le coup, les magazines et les unes de magazines, les candidats de The Voice que vous allez rencontrer, eux, ils en rêvent. Vous allez les mettre en garde contre ça, justement, et leur rappeler l'importance de la scène, qui doit être au centre de tout, en fait.
Parce que chanter en vrai, en live et tout, ça fait pas une carrière d'être un bon chanteur ou une bonne chanteuse. Il y a plein de super chanteurs, super chanteuses, pour lesquels il se passe pas grand-chose. Donc c'est pas ça qui fait tout, mais d'être sur scène et qu'il se passe quelque chose, une magie, évidemment que c'est déjà une grande partie du chemin.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard.
Les collecteurs dont refait la télé, c'est tous les samedis de l'été sur RTL. Et maintenant, on part en voyage en Italie avec Claudio Capeo.
Il cartonne avec son album de reprises de chansons italiennes. Et pourtant, ça n'a pas toujours été la Dolce Vita pour lui. Hein. Il a connu des hauts, Capeo a aussi connu des très très bas.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard.
Magnifique moment de télé il y a quelques semaines sur France 3. Ouais. Claudio Capeo accompagné d'un orchestre symphonique pour reprendre le fameux Caruso.
C'était merveilleux. Ça fait partie de mes plus beaux moments de télé. Hein.
Caruso, c'est l'un des tubes italiens que vous reprenez sur ce nouvel album, qui comprend également des titres inédits, hein, il faut le dire.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, il y a ce titre avec Gian Nannanini qu'on a pu écrire ensemble pendant ce premier confinement, en passant par l'internet. Et puis, une chanson qui s'appelle Mam, qui parle de nos mamans qu'on adore et qu'on aimerait ne jamais quitter. Malheureusement, il faut qu'on fasse notre route, quoi.
Quitter le nid.
Eh ouais.
Pensoate, un album enregistré en Italie après plusieurs mois de confinement chez vous, en Alsace, où vous avez profité de cette période pour bricoler. Une équipe du 12h45 d'M6 vous avez rendu visite.
On l'aurait plutôt imaginé en train de composer un album. Mais c'est un studio que Claudio Capeo se fabrique.
Je suis en train d'isoler, je suis en train de plaquer tout mon garage, vu que je suis à la maison, vu que j'ai le temps, vu que j'ai pas vraiment de coin pour faire de la musique avec les enfants et tout, c'est un peu compliqué. Et ça m'occupe énormément, un peu trop d'ailleurs au goût de madame, mais bon écoute, moi je suis heureux ici. Hein.
Tellement heureux chez vous, Claudio Capeo, qu'après le confinement, vous n'aviez plus du tout, mais alors plus du tout envie de revenir à Paris, c'est vrai.
Ah ouais, mais carrément, parce que j'étais trop heureux dans ma cave, dans mon jardin, où voilà, je faisais tout ce qui m'a toujours plu, la menuiserie et puis le bricolage de manière générale. C'est juste compliqué, je me disais, il va falloir que j'y retourne, que je me remette dans le bain, que je retrouve mes histoires, que je raconte des choses qui fassent plaisir aux gens, des choses où les gens vont m'écouter, vont m'entendre et vont vouloir prendre tout ce que j'ai à dire. Est-ce que c'est que des conneries ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes?
Vous dites, j'en ai chialé, carrément.
Ouais, parce que ça m'angoisse, parce que des fois je me dis, est-ce que j'en suis encore capable? Est-ce que j'en ai encore réellement envie?
Vous auriez pu, pendant ce confinement, décider de tout arrêter?
Non, j'aurais pas pu. Si j'avais été tout seul dans cette histoire, dans tout ça, dans tout ce chemin parcouru, oui, peut-être, parce que c'était que moi. Mais là, j'ai tous mes KPO, j'ai tous les techniciens derrière, il y a la maison de prod, il y a tout le monde, il y a toutes ces personnes qui vivent sur ce projet. Donc, non, c'est pas possible. Je suis pas un lâcheur. Hein. Je préfère pleurer dans mon coin tous les soirs et continuer partir au charbon toute la journée sans rien dire. Et puis après, voilà.
Claude Capeo, parcours particulier, on le rappelle, hein, votre notoriété, elle a décollé à la verticale il y a maintenant 5 ans. Vous faites The Voice, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Et là arrive ce titre qui va changer votre vie. Un homme debout, votre premier tube, et quel tube, hein, des ventes de disques phénoménales, un clip vu 160 millions de fois sur Internet. De quoi faire de l'homme debout également un homme heureux, sauf que... C'est l'inverse. Très vite pour vous, ce tourbillon médiatique, en fait, vous ne le vivez pas très bien, quoi.
Non, mais c'est pas dès le début, parce qu'au début, je le vis super bien, parce que c'est super, c'est merveilleux, mais les deux, trois premières années, c'est fantastique. Je pars dans tous les sens, je pars dans des pays de dingue, je fais des concerts monstrueux partout, où c'est plein chaque soir, où tout le monde connaît toutes nos chansons, tout le monde chante, tout le monde est... Voilà, il y a une joie, il y a un truc qui... Et puis au final, je me rends compte que j'ai pas dormi pendant ces trois années-là, j'ai pas revu ma famille, je me suis juste laissé porter, j'ai dit oui, on y va, parce qu'on voulait, vraiment le faire, parce que ça faisait 15 ans qu'on ramait derrière en faisant de la musique, et là, on voulait vraiment y aller. Et puis, en fait, j'ai arrêté de penser, puis j'ai arrêté de penser à moi, tout simplement. J'ai arrêté de penser à l'homme que j'étais en train de devenir. Et est-ce que j'étais en train de devenir une belle personne ou pas? Est-ce que j'étais pas en train de devenir un gros con J'oubliais l'essentiel, je perdais l'essentiel.
Vous ne vous reconnaissiez plus dans ce qu'on était en train de faire de vous?
Si, je me reconnaissais complètement, mais en fait, je ne savais plus. J'étais incapable de réfléchir et de savoir qui j'étais devenu, en fait. Je savais plus. Je m'étais complètement paumé, quoi.
Le pire, c'était quoi? Le rythme qu'on vous imposait? Le fait aussi d'être reconnu par tout le monde du jour au lendemain?
Il y a un peu de ça. Il y a aussi les beaux hôtels et puis toutes ces personnes qui viennent me voir, qui m'idolâtrent et qui me disent que t'es super, que t'es merveilleux. C'est con, mais quand j'arrivais en radio, bonjour Claudio, ça va? En fait, au début, je trouvais ça super et à la fin, je me disais, mais en fait, ils me mentent tous, quoi. C'est ça,
vraiment,
en fait. Je flippais vraiment. Je me disais, en fait, c'est vraiment moi. J'étais torturé. Je me disais, en fait, on se fout de ma gueule tout le temps. C'est fou. En fait, on commence à se foutre de ma gueule. J'ai plus envie de ça, quoi. J'ai envie qu'on soit sincère avec moi, quoi. J'ai envie qu'on me dise quand c'est pas bien. J'ai besoin qu'on me le dise, quoi. Et c'était toujours, non, c'est super, c'est merveilleux. Au bout d'un moment, non, tu peux pas être super et merveilleux toute la journée, quoi. C'est pas possible.
Le sentiment d'évoluer dans un univers finalement faux.
Ouais, où j'ai l'impression. Et puis aussi, il y a eu ce début où j'arrive à Paris. Je suis tout seul à Paris. Je connais personne. J'ai jamais vu la Tour Eiffel. Et puis j'arrive à Paris. C'est bizarre, quoi. Je suis dans une chambre de bonne pendant plus d'un an, je suis pas chez moi, à la maison, dans ma campagne, j'ai plus mes copains autour de moi, j'ai plus personne, donc je mange de la saloperie tous les soirs à l'hôtel parce que j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir les gens parce que je les connais pas, moi, ces gens. Et du coup, je m'attache à certaines personnes de prod, de radio, de trucs où je me dis, eux, je les connais, eux, c'est mes amis. Et au final, au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que c'est réellement mes amis, c'est tout? Et puis, ouais, ça m'a fait un peu vriller, quoi. Je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être pas envie de ça, en fait. Hein.
Vous avez forcément entendu parler de cette info cette semaine, Claudio Capeo. On a beaucoup parlé de la séparation des Daft Punk.
Ouais.
Vous auriez préféré, vous aussi, avoir un succès à la Daft Punk, c'est-à-dire le succès, la reconnaissance sans la notoriété? Parce que la notoriété, ça doit être compliqué à gérer, ça aussi, au début, le fait d'être reconnu par tout le monde.
Elle est super gênante. Moi, c'est surtout qu'elle me gênait parce que, moi, j'ai toujours été le petit Claudio, hein, tranquille. Moi, tu sais, je pourrais être ton pote, je pourrais être. c'est cool, hein, pas de souci. Et puis voilà, quand il y avait ces téléphones, ces trucs, ah, vache, attends, ça me faisait bizarre. Aujourd'hui, je l'accepte et aucun souci. Au contraire, ça fait plaisir. Tant que ça fait plaisir, c'est super. Mais c'était très gênant. Je trouve ça super gênant.
2016, un homme debout. 2017, on en parlait. Là, c'est plus compliqué. C'est plutôt un homme à genoux. Là, vous craquez. Carrément, c'est ce qu'on évoquait, c'est le burn-out.
Ah oui, je tombe littéralement. On se retrouve à La Réunion. On fait un concert à La Réunion pour les Francofolies. Et puis là, c'est ce moment où gros hôtel et tout. Je me rappelle jacuzzi au bord de la mer et tout. Je supporte pas. Et je suis avec ma femme et tout. Et puis là, je sombre. Fini, c'est terminé. Et puis on rentre à la maison.
Une fois encore, parce que c'est
puis
trop.
Je me suis enfermé. Ouais, parce que c'était pas ma vie, quoi. Elle est partie, c'est parti trop loin, trop vite, sans que je m'en rende compte, quoi. Et puis du coup, j'ai eu besoin de m'enfermer chez moi, de ne plus, même mes amis, je voyais plus grand monde. Et puis ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, il m'a fallu ce temps-là pour me retrouver, pouvoir me recharger un peu, quoi.
Ça vous a servi de leçon, vous acceptez moins de choses qu'avant.
Ouais, exactement. On est un petit peu plus dur maintenant. On arrête de dire oui, amen à tout et d'être toujours super gentil, super venant avec tout le monde parce qu'en fait, tu te fais bouffer, tu te fais souvent ramasser la gueule. On te ramasse à la petite cuillère. Donc, cette fois-ci, un peu plus dur, sûr de soi et un peu toujours aussi gentil, toujours aussi sincère, toujours aussi respectueux. Tout ça ne change pas. Mais c'est juste que voilà, on a ses convictions et puis on les tient jusqu'au bout et puis on lâche pas. Et puis s'il veut pas, on fasse. Et tant pis, hein. Il y a d'autres personnes qui attendent derrière. Ça fait de la place pour les autres.
Hein. Et la promo, on dose un peu mieux aussi. On fait un peu moins de télé.
On la répartit différemment, on travaille différemment. Et puis, c'est vrai qu'avant ces confinements, avant cette saloperie, on avait tendance à courir toujours comme des fous, comme des débiles, à faire tout dans tous les sens et tout. Et puis, cette fois-ci, on a décidé de se détendre un peu, d'en faire toujours autant, mais différemment. Ça fait du bien.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Eric Dussard.
Et on continue de réécouter les meilleurs moments de l'émission avec Clodo Capéo, qui a la même dépendance que nous, Jade.
Quoi, les apéros d'été?
Non, pas ça. Notre autre passion, la télé. Il est complètement accro, en fait.
Ah oui, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Voici les meilleurs souvenirs télé de Clodo Capéo.
Jade, Eric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
Le replay de l'invité.
Bien.
Ah mais ça j'adorais.
Il devait courir encore plus vite que Benny.
Il faisait quoi Clodo Capéo le dimanche soir quand il était petit?
Il regardait Benny Hill tout le temps. Voilà. J'adorais.
Avec ses parents.
Et après ça, il fallait que j'aille au dodo.
Hein. Et
après c'était la semaine qui recommençait.
C'est ça. Ouais, parce que c'était drôle Benny Hill, mais pour beaucoup d'enfants c'était aussi l'angoisse du dimanche soir.
Bah ouais, mais
quand
c'est
on s'en écoute, on n'avait pas fait ses devoirs.
C'est ça. Mais bon, Benny Hill donnait le sourire et puis il nous donnait le moral et puis c'était rigolo et puis voilà.
Alors on a aussi un autre générique qui lui signifiait que l'école était finie.
Est-ce que vous connaissez le générique de Capéo? C'était sur TF1 tous les soirs, un jeu animé par un certain Lagaffe.
Ah, le Big Deal.
Ouais.
Le Big Deal.
Vous savez qu'en Alsace, on a encore le Big Deal au cas où.
Comment ça? Vous avez des femmes de TF1 d'il y a 20 ans?
Vosges, dans les Vosges aussi, pareil, ils ont encore le Big Deal. Nous, encore le Big Deal. On est à la saison 8 là, en ce moment-là. Non, mais c'est vrai que j'adorais le Big Deal, vraiment. J'adorais Vincent, j'adorais ses blagues. J'adorais avec ses cheveux, moi ça me faisait rire, moi rien de faire rire, moi je rigole surtout. Puis il y avait DJ Aspect qui avait des platines et tout, il faisait le mec quoi, DJ Aspect. Il avait Newmark que j'avais acheté à l'époque, c'était la table de mixage qu'il a sur le truc, moi je te jure. Et il y avait Ramucho, tu te rappelles de Ramucho?
J'ai pas un bac plus 10 Big Deal, Capéo, contrairement à vous.
Non mais moi j'adorerais qu'il fasse le Big Deal quoi.
Et vous adoriez aussi Bill, la créature virtuelle du jeu?
J'adorais Bill, mais bon lui il était là mais il n'existait pas pour de vrai, alors quand ça existe.
On vous l'a dit qu'il
n'existait pas. N'existe pas pour de vrai, j'aime moins. Tu vois, c'est comme dans ces films de science-fiction, des trucs et tout. Des fois, j'aime moins parce que ça n'existe pas pour de vrai.
Donc, vous regardez souvent le Big Deal. Ah, il vous arrivait aussi parfois, visiblement, Claudio, de zapper sur Question pour un champion, car vous nous avez parlé de cet extrait-là.
Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël?
C'est la mer Noire.
Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie?
C'est la mer Noire, la mer.
Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique est reliée à la Méditerranée par le canal de Suez?
C'est la mer Noire.
Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta?
C'est la mer Noire.
Oui.
Oui.
Mais comme quoi, il faut toujours persévérer dans la vie.
Exactement. Voilà. Rien.
Allez, pour votre dernier souvenir télé, Clodo Capéo, on va rejoindre les rives d'une autre mer.
Car on part à San Remo en Italie, ville connue pour son mythique festival de chansons italiennes. Vous le regardiez en direct avec vos parents sur la Rai,
Raiuno, c'était Raiuno à l'époque. Ouais, parce qu'on adorait ça, parce que mon père adorait ça, adorait voir tous ces grands chanteurs, ces grandes chanteuses, ces grandes voix. C'est surtout des grands grands souvenirs voilà, sur le canapé avec mon papa, ma maman, ma sœur, et puis regarder ces grandes chansons.
C'était, petite colle, Cléo Capéo, qui a remporté le festival de San Remo en 1958
attends, Wikipédia, là,
c'est un duo.
C'est un duo
que vous reprenez sur votre album. Domenico Modugno, Johnny Dorelli, qui chantait ceci.
Classique de la chanson italienne que l'on retrouve sur votre album dans une version mi-italienne, mi-française.
Ouais, ouais, exactement.
J'imagine, Claudio Capéo, que vous avez vraiment hâte de pouvoir chanter ces titres sur scène. Hein.
Ouais, mais là, je me retrouve dans la cave du petit studio avec Régis, tout à la batterie, tout. On est en train de jouer en live, ça a été fait en live, c'était merveilleux. Et oui, bien sûr, de pouvoir revoir notre public, de pouvoir retoucher nos instruments, de pouvoir voilà, raconter nos belles histoires et nos conneries, et puis se faire des sourires. Et puis voilà, c'est toujours. Ça nous manque réellement, là, de plus en plus, et ça commence à être angoissant, en fait. Là, et commence
à y avoir un truc.
Ouais. Ouais, parce qu'au début, on s'est dit, c'est pas grave, parce que bah, on a beaucoup tourné pendant 4 ans, on a été dans tous les sens, bah, limite ça nous fait une petite pause, on se détend un peu et puis on reviendra, on sera plus fort, ça ira, on va pouvoir se recharger. Mais là, quand même, au bout d'une belle année passée, là, on a envie que ça reprenne. Là, c'est trop long, là. On a hâte.
Eh bien, Eric, comme dirait Claudio Capéo, c'est le moment de vous dire arrivederci.
Est-ce que vous parlez bien allemand? Je le fais. Merci Jeanne.
Quelle mauvaise langue vous êtes.
Et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve samedi prochain pour d'autres pépites, d'autres collecteurs dont refait la télé.
Oui, avec 3 invités très cash, Nicoletta, Gérard Jugnot et François Berléand. La suite, c'est RTL Midi. On vous souhaite un excellent week-end. Salut.
Alors. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jeanne, Éric Dussard.